de vous arrêter.
C'est cela.
Eh bien, le bonsoir, les amis, c'est Angelus Yodasson.
Et Croquette.
Voilà, pour le numéro, donc...
14.
Oui, de cet épisode de Mariés deux iPhones, parce qu'on enregistre des Mariés deux iPhones, nous.
Oui.
Oui.
D'accord.
Oui. Non, parce qu'on ne va pas dire merci pour ce numéro 14 de Le Sport, on va dire P2P, là, parce que les deux autres nazes, ils font...
Ouais,
parce que nous, c'est pas nous, on fait ça, nous, on fait des trucs bien.
Mais nous, on mange pas des chips, en plus.
Oui.
On
c'est tout l'effet que ça te fait quand je te dis qu'on mange pas des chips.
Ouais, ils mangent des chips.
Des chips. Et donc, comme nous ne mangeons pas de chips, on va parler de...
D'un livre qui s'appelle Tarte aux pommes et fin du monde.
Ah, soit.
Et d'un film, Pop Redemption.
D'accord. Et on va aussi parler de musique, avec un album qui s'appelle An Evening with Herbie Hancock and Chick Corea. Ou l'inverse, je ne sais plus. J'ai peur de me tromper. Non, c'est bien ça. With Herbie Hancock and Chick Corea. Et non, pas l'inverse. Et de jeux, parce qu'on a eu la Wii U, donc on va parler un petit peu de la Wii U et du jeu qu'on a eu avec, qui s'appelle Zelda The Wind Waker HD. Parce qu'il a été re-HDifié et que c'est mieux. Sinon, ça pique les yeux.
D'accord.
Voilà. Tu es d'accord avec ce programme?
Oui.
Eh bien, soit, c'est parti. On va donc commencer par quoi, d'ailleurs?
Un livre.
Allez, c'est parti, le livre.
Donc, je vais vous parler de Tarte aux pommes et fin du monde de Guillaume Ciodo. Mmh. Donc, le quatrième de couverture. Alors
donc, qu'une... on ne fait plus la blague sur le Ciodo Q comme tout à l'heure.
Non, d'accord. Mais ça, on l'avait coupé au montage, arrête.
D'accord. Ben oui, mais après, les gens, ils profitent pas des blagues tout nulles.
Oui, parce que je disais que Ciodo, ça me faisait penser à du ch'ti, en fait. Oui. Genre, va chercher le Ciodo, voilà.
C'est vrai que quand j'ai enchaîné sur Trou du cul, c'était le Ciodo cul.
Voilà. Maintenant, on peut y aller, c'est bon.
C'est bon, on a casé nos blagues, on peut y aller.
Alors qu'une caissière s'échine à trouver le code-barre sur une boîte de macro, un garçon et une fille tombent en amour. Celui-ci s'attache à un collègue en manutentionnant des palettes de conserve pour animaux et remercie la propriétaire de son studio pour la tarte aux pommes qu'elle lui apporte. Sa nature contemplative a bien compris que les chiens ne volent pas, même avec des ailes en carton, que la chute des corps est inévitable, comme l'éclat de son père n'était pas avare. Il ignore encore ce qu'on peut habilement faire avec un revolver. Alors, il est un peu chelou, ce quatrième de couverture.
Et il a l'air un petit peu québécois aussi.
Ouais, peut-être, je sais pas. En fait, j'ai...
Ah, genre tombé en amour, manutentionné et tout ça.
Ouais, en fait, comme j'ai l'e-book, tu vois, j'ai copié-collé sur
oui, non, mais bravo.
Le truc d'Amazon. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre comme quatrième de couverture. Enfin, bref. Donc, Tarte aux pommes et fin du monde. Alors, c'est un joli petit roman pour cette rentrée littéraire que là, on est fin octobre, mais bon.
Oui.
Il n'est jamais trop tard pour profiter de la rentrée littéraire. Alors j'avoue, je l'ai lu à cause de son titre qui m'a fait marrer. Je sais pas, Tarte aux pommes et fin du monde. J'ai trouvé ça assez cocasse. Je l'ai...
Oh oui, c'est très cocasse.
Non, je sais pas. Alors,
après les roucasseries, les cocasseries. Oui, donc, vas-y.
Mais oh. Et donc, alors il est pas ni très bon ni mauvais. C'est un petit récit en fait. Voilà.
D'accord, merci. Voilà. Nous allons passer à la suite du.
Mais non. Alors c'est plein de douceur et de mélancolie. Donc Guillaume Ciodo, il passe en revue la vie d'un jeune garçon rêveur dont la maman est partie bien trop tôt avec un homme qui ne pique pas, qui ne leur parle pas en fait, il leur parle jamais. Enfin bref, et qui pour le coup a dû être élevé avec sa sœur par un père alcoolique et violent. Donc voilà, déjà bonne ambiance, wouhou.
Sympa.
Ouais. Et donc suite à une rupture sentimentale, il tombe dans la dépression et trouve du réconfort dans les tartes aux pommes que lui file la propriétaire de son appart et dans le revolver qu'il vient de s'acheter et qui lui donne...
Oui, je trouve du réconfort dans mon revolver.
Et qui lui donne l'impression d'être maître de son destin, en fait. Genre, ouais, j'ai un flingue, si je veux, je peux très bien me buter, je suis un ouf, quoi.
Sympa.
Ouais, bonne ambiance, quoi. Mais en fait, je sais pas, j'ai trouvé le personnage assez touchant, un peu timbré en fait, mais...
Tu dis ça parce qu'il kiffe son flingue et
ouais,
qu'il
un peu, la tarte aux pommes. Mais bon, en fait, c'est ce qui le rend un peu attachant en fait, tu vois, enfin, ouais. Alors c'est un roman court qui fait 150 pages, donc ça se lit très très vite, moi je sais pas, j'ai dû lire en 2 heures à peine, quoi. Mais en fait, il y a tellement de thèmes qui sont abordés, la solitude, l'alcoolisme, la précarité, la dépression, que...
L'armopholie.
Ouais, la quoi ? L'armophilie.
L'armophilie, c'est comme la zoophilie, mais avec des armes.
Ouais, en plus. Ouais, il dort avec en plus.
Ah, tu vois ?
Ouais.
Moi, je veux pas savoir comment il lui ramolle le canon, mais bon.
Oh, donc je pense que, tu vois, ça vaut la peine d'être lu, je sais pas, en 150 pages, d'écrire autant de choses. Moi, j'ai trouvé ça assez...
Il écrit petit, c'est tout.
Il écrit plus petit. Il écrit plus petit qu'Amélie Nothomb.
Oui, non, elle écrit gros avec des feutres.
Alors, bien sûr, il y a quelques maladresses pour un premier roman, parce que c'est le premier roman de cet auteur,
Guillaume Sodécu.
Mais je trouve que c'est un début assez prometteur, parce que je trouve qu'il a déjà vachement de style. J'ai bien aimé sa façon d'écrire, en fait. Et voilà. Et puis, l'auteur est auvergnat. Alors, rien que pour ça, ça vaut la peine d'être lu.
D'accord, oui. Et, mais en fait, pourquoi, du coup, il n'est pas top ? Parce que, en fait, c'est trop survolé, les thèmes ?
À cause des maladresses, en fait. Il y a quelques maladresses qui, du coup, font qu'il n'est pas parfait, mais...
Genre ?
En même temps, je sais pas, dans le récit, il y a quelques petites incohérences. Je ne vais pas dire,
voilà.
Je ne peux pas dire.
Oui, non, mais il y a des petites incohérences, déjà.
Oui,
ça,
voilà.
Ça éclaire un petit peu, là.
Voilà, mais voilà, puis c'est pas non plus le livre du siècle, mais c'est un livre qu'on lit comme ça, genre quand on a...
Oui, c'est un livre d'été, sauf qu'il tombe à la rentrée, quoi.
Voilà, quoi qu'il est, il est sorti en août, le 14 août. Hein.
Ah, donc, peut-être pour ça.
Peut-être pour ça. Donc il est édité chez Alma, et 14 € au format broché et 9,99 au format...
En format carpe. Carpe, broché, blague, poisson.
Oh putain.
Oui.
Ouais, donc en e-book.
D'accord.
Voilà.
C'est tout.
Oui.
On a donc passé à la rubrique d'après, ça va être, bon allez hop, la rubrique musique. Et donc, comme promis, je vous parle d'un album de musique avec des notes dedans. Sur, en fait, c'est plus qu'un album de musique, c'est deux albums, enfin c'est un album en deux CD, en deux parties, donc, qui a été enregistré, si ma mémoire est bonne, quand j'aurais retrouvé la page en 1978, en effet. En fait, c'est des extraits de différents concerts qui ont été enregistrés par Andy Hancock et Chick Corea, qui sont donc des joueurs de piano.
Leroux.
Quoi?
Leroux.
Corea, Leroux.
Chick Corea. Chick Corea.
Oui, oui. D'accord. Et Herbie Hancock, ça n'a rien à voir avec le super-héros.
De la loose, d'ailleurs. Il était naze, ce film.
Non, j'ai bien aimé.
Oh non, moi j'ai détesté.
Non, moi j'ai bien aimé.
Moi j'ai pas aimé.
Les gens s'en foutent. Donc, qui en fait ont la particularité en fait, de jouer en même temps. D'habitude, il y a plutôt des pianistes solo qui font leurs petits concerts, des pianistes qui font partie de groupes ou de quatuors ou autres groupes plus importants. Et en fait, non, il n'y avait là sur scène que deux pianos. Et ça a été en fait enregistré entre autres au Mansonic Auditorium de San Francisco, Dorothy Chandler Pavillon de Los Angeles, au Golden Horn de San Diego et au Hill Auditorium d'Ann Arbor, je ne sais absolument pas où c'est. C'est un album classé dans la catégorie jazz, et bien forcément vu les noms des protagonistes qui protagonnent. Et il ne dure pas moins de 91,4 minutes, merci la fiche Wikipédia. Donc c'est quand même assez...
jazz.
Comment dire ? Oui, assez jazz, mais en fait pas mal aussi acoustique en fait. On se rapproche plus du classique, de l'acoustique, que vraiment les thèmes, je dirais les genres de prédilection d'Herbie Hancock et Chick Corea qui sont plus jazz fusion, chose comme ça d'habitude, un truc un peu plus... un peu plus underground du jazz et tout. Là, on est plus proche du classique et des petites variations. Un peu dans le style de piano à laquelle j'arrête, tu vois.
Non, mais on va dire que oui.
Voilà. Donc, du coup, comme tu ne vois pas, je crois que le moment est venu de dégainer mon extrait.
Ouais.
En fait, on voit bien un petit peu un des petits principes récurrents de cet album, c'est-à-dire qu'en fait, il y a les deux pianos, l'un répondant à l'autre et inversement. En fait.
Ah, il se parle.
Voilà, sachant que l'enregistrement est tel énormément bien fait que quand on a la stéréo, en fait, on a toujours Herbie Hancock qui est sur le côté gauche, sur la piste gauche, en fait, et Chick Corea sur la piste droite, ce qui permet de voir qui joue quoi et comment ils se répondent. Voilà, seulement là, je vous avouerai que vu
c'est
les.
C'est pas un peu perturbant, en fait.
Ben non, c'est comme quand t'as tes deux oreilles et que t'écoutes les gens, tu sais où ils sont et. Ça te permet de savoir qui joue quoi, ou comme quand les gens parlent.
Ouais, mais du coup, ils jouent en même temps.
Oui, ils jouent en même temps, mais des fois, quand pas, enfin pas tout le temps, des fois t'en as un qui fait un truc, l'autre il répond en faisant un autre truc et tout, et là comme ça tu sais d'où ça vient. Et...
D'accord.
C'est qui répond et tout. Voilà, ce que j'allais dire, c'est que vu le format d'enregistrement d'une podcast, je suis pas sûr que vous ayez la stéréo, donc que vous puissiez entendre les variations. Bah tant pis, ça vous donnera juste une petite idée. Et au pire, si vous voulez vraiment le truc, eh bien allez l'acheter. Je pense qu'il doit être sur iTunes, sur Amazon, mais de toute façon, comme d'habitude, dans le post qui ira avec le podcast, eh bien, je mettrai les liens. Et les liens, vous cliquerez dessus. Et là, par la magie de l'Internet mondial, vous tomberez sur comment écouter, acheter, voire tester l'album. Voilà. Donc sur ce, un petit extrait. Comme on est astreint à 30 secondes, forcément, ça coupe un petit peu comme un caca, vu que ça coupe à 30 secondes pile. Pour l'avoir écouté en même temps que vous, en condition du réel, tout ça, condition du direct, on est des ouf. En fait, oui, vous n'avez bien pas la stéréo, mais un petit peu dommage. Enfin, on voit bien quand même le petit côté. Voilà, réponse, machin et tout. Ça sent que là, c'est une partie un petit peu punchy, il y a des morceaux qui sont plus entraînants que d'autres, d'autres qui sont un peu plus mélancoliques.
Et un peu moins entraînants.
Oui, du coup. Voilà. L'album, par exemple, eh bien, commence par une piste qui s'appelle Someday My Prince Will Come, qui rappellera quelque chose à certains. Un jour, mon prince viendra, ça vous dit quelque chose? Voilà. Genre Disney, tout ça. Je vais vous donner tous les
d'ailleurs,
titres.
D'ailleurs, à chaque
de
fois, je me souviens plus si c'est.
Oui, si c'est Blanche-Neige ou Cendrillon, moi non plus.
La Belle au Bois dormant.
Oui, d'ailleurs.
Ouais.
Je ne sais. Oui, peut-être.
Je sais pas.
Ouais, je sais plus. Si vous avez la réponse, donnez-les dans les commentaires, ça vous apprendra à bosser un peu, bande de feignasses.
Je crois que c'est La Belle au Bois dormant.
Donc, voilà, le deuxième morceau, c'est Lisa. Le troisième morceau, c'est Button Up. Ça, c'est pour le premier album, enfin, le premier CD. Et sur le deuxième CD, nous avons February Moment, Maiden Voyage et La Fiesta, parce que c'est La Fiesta. Rassurez-vous, non, ça n'a rien à voir avec Patrick Sébastien.
Ouais, j'allais dire...
Non. Voilà, rassurez-vous, il n'y a que de la qualité. Donc, achetez-le, il se trouve, je pense, sur iTunes, sur Amazon, donc j'ai déjà dit, j'aurai les liens. C'est assez sympathique, si vous aimez le piano, foncez, courez.
Le jazz, écoutez-le. Aussi.
Oui, aussi. Oui, mais enfin, je veux dire, ils peuvent aimer le jazz et être plus dans les cuivres, par exemple, tu vois, les trompettes, Miles Davis, tout ça.
Ouais.
Forcément, quand là, il n'y en a pas. Donc ça peut aussi les intéresser, mais ils ne trouveront pas de cuivre. Il n'y a que du piano. Deux. Voilà.
En même temps, quand tu vois la pochette...
Oui, car sur la pochette, il y a bizarrement deux pianos, l'un à côté de l'autre.
Donc, bon.
Voilà. J'espère que je vous ai donné envie. Sinon, eh bien, je me suis lamentablement foiré. C'est tant pis pour moi. Mais j'aurais tenté le coup de vous inciter à aller écouter cet album. Et du coup, maintenant, tu vas nous parler d'un film, c'est
oui.
ça ? Eh bien, je vais donc mettre le jingle film.
Donc, Pop Redemption de Martin Le Gall.
Le goût Attends, t'as fait le coup avec la chicorée soluble, c'est bon, je peux faire Le Gall le goût. Hein.
Ouais, en même temps, je m'y attendais, je sais pas pourquoi. Mais je
Donc,
le synopsis. Hein.
Tout à fait.
Les Dead Maccabées, groupe de black metal de quatre potes qui se connaissent depuis l'adolescence, sont en pleine crise de la trentaine. Leurs croyances sataniques se sont estompées avec le temps face aux responsabilités des adultes. Seul le leader du groupe ne baisse pas les bras et parvient à les inscrire au plus grand festival du genre, le Hellfest. Impliqué dans la mort accidentelle du patron d'une boîte de nuit, qui est plutôt une boîte de striptease en fait, je sais pas pourquoi ils mettent boîte de nuit, mais bon, ils se sont fait passer pour un groupe de pop musique dans une fête de village afin d'échapper à la police. Un road movie semé d'embûches pour quatre potes qui tentent de rester fidèles à leurs idéaux.
Bien, mais c'est un film...
Français.
Oui, c'est génial parce que le Hellfest, c'est un peu un truc chez nous.
Oui, c'est un film français. Donc, alors, par contre, ce n'est pas un film sur le black metal, hein, comme j'ai pu le lire à plusieurs reprises lors de sa sortie au cinéma. Il y a des magazines quand même qui disaient.
Il y a menti.
C'est un film sur le black metal, les gars. Ouais.
Et en fait, non.
Alors, en fait, bon, il y a bien du black metal, vu qu'en fait, le groupe est un groupe de black metal. dedans, et on y cause du Hellfest. Mais si, enfin, faut pas aller le voir en se disant ouais, c'est un film de.
Oui, c'est pas un documentaire sur le black metal, quoi.
Ouais, non, non. Puis voilà, en fait, c'est surtout un film sur l'amitié qui unit les membres du groupe, en fait.
Oh, ouais, un road movie sur l'amitié.
Ouais. D'ailleurs, moi, j'ai pas été je l'ai pas vu pour le black metal, hein. Je l'ai vu pourquoi. Pour Julien Doré.
Ah merde. Et... Ah oui, c'est la fameuse affiche avec les pseudo-kiss qui se trimballent.
Ouais.
Façon les Beatles à Bayreuth au milieu des champs, là.
C'est ça. D'accord. Parce que, bah ouais, j'adore Julien Doré, j'adore ses chansons et je le trouve bon acteur. Alors, bah voilà, c'est un choix. Hein. Moi, je. Voilà. Peut-être, non, mais, peut-être qu'en vous, il est naze, hein, mais moi, je m'en fous.
Tout ça.
Voilà. Moi, je l'aime bien. Et puis, c'est tout. Voilà.
Oui. Par contre, la question que je me pose, c'est comment il arrive à faire du black metal avec son petit ukulélé, mais.
Non, il n'a pas son petit ukulélé, là.
Et donc, oui, tu es censé enchaîner là-dessus.
Oui, bah, mais il me coupe pas avec des histoires de ukulélé. Enfin, bref. Donc, le film, enfin, il est...
Est-ce qu'il vaut le coup, Lélé ?
Oh là là. Mais comment tu veux que je fasse un truc sérieux ?
Mais on t'a jamais demandé de faire un truc sérieux.
Moi, j'aimerais bien, des fois.
Et donc,
non, je déconne. J'ai souri, j'ai ri. J'ai trouvé que c'était une bonne comédie, en fait. Après, je pense que ça peut ne pas plaire aux gens, mais moi, j'ai bien aimé. Voilà. Les raccourcis sont parfois un peu faciles, hein, mais en fait, on s'en fout parce que c'est le genre de film qu'on va voir, quand on n'a pas envie de se poser de questions, en fait.
Oui, c'est un film d'été comme le bouquin d'avant.
Voilà. On y va pour passer un bon moment et... Enfin, j'ai vraiment trouvé que c'était le cas, en fait.
Oui. Enfin, tu doutes que c'est pas un film d'auteur, quoi.
Non. Voilà. Voilà. J'ai bien aimé aussi voir ce qui fait la vie d'un groupe de musiciens amateurs. Enfin, en fait, avec des questions. Non, ça c'est quand ils sont plus jeunes. Après, quand ils sont plus vieux, tu vois, genre les questions. Est-ce qu'on a encore l'âge pour ces conneries? Est-ce que je devrais pas plus m'occuper de ma famille que de m'occuper de ce groupe qui mène à rien? Enfin, tu vois. C'est j'ai bien aimé aussi retrouver Alexandre Astier et Audrey Fleurot, en fait, qui sont donc le roi Arthur et la dame du lac de Camelot. C'est assez marrant de les voir dans d'autres rôles ensemble, en fait. J'ai trouvé ça rigolo.
D'accord. Et ils font quoi là-dedans, là ?
Alors, elle est gendarme et lui, c'est un flic de je sais plus quelle... une espèce de FBI, mais pas du FBI. Quoi.
Ah oui, enfin, ils ont pas des rôles prépondérants, si. Enfin, ils font pas partie du groupe et tout.
Non, ils font pas partie du groupe, mais on les voit quand même, on les voit pas mal, hein. Ouais,
d'accord.
Ouais.
Parce qu'en fait, c'est eux qui courent après les autres.
Ouais.
D'accord.
Voilà.
Oh, je sais pas, j'ai pas vu. J'essaie d'extrapoler.
Ouais.
Pas mal.
Bah, sinon, j'aurais aimé un peu plus d'explications sur la fin, mais bon, comme je l'ai dit, c'est un film qu'on va voir sans se poser de questions.
D'accord. Pourquoi la fin, c'est quoi ? Non, je déconne.
Non, ouais. Mais ouais, il était assez sympa. Je le regardais, c'était cool.
D'accord. En gros, c'est un... Si vous l'aimez, vous n'avez pas réussi à vous vider la tête avec le livre, essayez le film pour...
C'était les chroniques vidage de tête.
Oui, non, mais ça peut être des fois aussi, t'as pas envie de te prendre la tête pendant 3 heures quand tu regardes un film.
Bah ouais, non.
Voilà, en plus, voilà, ouais. C'est bien, il y a Alexandre Astier, donc c'est forcément bien.
Ouais, il est sorti le 23 octobre chez Gaumont, et donc il est à 12,99 le DVD.
En broché.
Et 14,99 en Blu-ray.
D'accord, voilà. Et bien soit... Si vous aimez Julien Doré, si vous aimez Alexandre Astier, si vous aimez la Dame du Lac, je ne me souviens plus son nom.
Oui.
En habit de gendarme.
Ou si vous aimez les comédies françaises.
Oui, ou les road movies.
Si vous aimez le black metal.
Si vous aimez
Beatles.
L'été, l'amitié. Si vous aimez les bus et les road movies.
Ouais.
Allez-y. Voilà. Eh bien, on va tout doucement s'orienter vers la... Ouh là, l'épisode va être court, on n'en est qu'à 19 minutes. S'orienter vers la dernière partie qui est la partie jeux vidéo, on parlait de la Wii U.
Oui,
et oui, j'ai gardé l'accent du gendarme, on va parler de la Wii U et de Zelda Wind Waker HD. C'est parti au Monkey King. Et donc, la Wii U, qu'est-ce que c'est ? C'est une console que Nintendo essaye de vendre, mais à première vue, ça marche pas trop.
Mais nous on l'a acheté
parce que quand même c'est bien, et puis je vous ai expliqué qu'en fait à mon avis c'est mieux quand on l'a que quand on lit les trucs. C'est-à-dire quand on a tendance à lire les trucs, le machin se dit oh c'est tout pourri et tout, ça va qu'il y a 2-3 jeux que je veux faire dessus parce que voilà. Mais en fait, quand tu l'as, tu dis que c'est pas si mal que ça. C'est vrai que là, pour l'instant, c'est surtout moi qui l'ai essayé.
Bah ouais, j'ai pas
et,
trop le temps.
Donc, pour ne rien vous cacher, j'ai pris, enfin, je nous ai pris, hein, vu que c'est aussi pour que madame puisse jouer à ses anciens jeux Wii, parce qu'on n'a jamais récupéré notre Wii. Donc, je l'ai pris en édition limitée avec The Legend of Zelda Wind Waker, qu'on peut télécharger sur l'eShop. Et avec, du coup, c'est du coup la version noire en 32Go, donc la grosse, entre guillemets, Wii U. Et avec un gamepad avec quelques fioritures aux
couleurs de Zelda.
Aux couleurs de Zelda, c'est-à-dire doré, avec un petit logo de la Triforce et tout et tout.
Mm.
Et c'est vrai que c'est sympa en fait, parce qu'il paraît que les menus étaient super lents. C'est vrai qu'ils le sont un peu, mais je pense qu'il y a eu des mises à jour assez sympathiques. D'ailleurs, dès que vous l'avez, si jamais vous l'achetez un jour, faites tout de suite la mise à jour, parce que quand j'ai voulu télécharger par exemple Zelda sur eShop, j'avais un truc tout blanc. Autant sur le gamepad que sur l'écran de la télé, et en fait, c'est qu'il fallait faire une mise à jour. Voilà. Sinon, on peut avoir des sessions différentes pour pas se mélanger les comptes et tout, ce qu'il n'y avait mais pas sur... de tête si... de mémoire sur la Wii.
Non.
Il y a ça sur la PS3, mais sur la Wii, je suis pas sûr.
Ah oui, non, c'est selon les jeux, en fait. Tu pouvais te faire des sessions dans les jeux.
Ouais, mais là, c'est de base. Ce qui est bien, c'est que... Alors là, c'est pas très, très évolué, mais elle peut servir de télécommande aussi pour votre télé ou même pour la box. J'ai réussi à paramétrer la box et tout dessus. Et ce qui est sympa, justement, et ce qui marche sur certains jeux, pas beaucoup vraiment, je crois, c'est un petit peu dommage, mais par exemple, ça marche sur The Legend of Zelda, The Wind Waker HD. Sûrement parce que c'est un jeu Nintendo fait pour la Nintendo, justement. C'est que si jamais il y a quelqu'un qui veut regarder la télé, eh bien vous pouvez vous éloigner tant que le Wii U Gamepad y marche. Mais vous pouvez jouer sur votre gamepad sans embêter, en fait, comme si c'était une petite console portable. C'est assez sympa. Mm. Et puis, finalement, le gamepad n'est pas si gros. Après, bon, comme tous les trucs tactiles, ça a tendance à se crader à la vitesse de l'éclair. Mais sinon, les gâchettes sont sympas. Les sticks aussi. Au niveau prise en main, c'est... Je m'attendais à ce que ce soit un peu lourd et tout. Non, c'est sympa, tu vois. Ça respire le solide sans être super lourd. C'est, voilà, c'est sympa. Et le jeu en lui-même, pourquoi je l'ai pris? D'abord parce que c'est un Zelda et que j'aime beaucoup les Zelda. En plus, parce qu'à l'époque, quand il est sorti, c'est-à-dire le 2 mai 2003, c'est dire si ça remonte en Europe sur GameCube.
10 ans.
Deux?
10 ans.
Oui, bah à peu près. Je l'avais pas fait parce que c'était à l'époque du cel shading et je disais, ouais, Zelda en cel shading, c'est pas comme ça que ça doit être et tout, c'est tout pourri, machin, niette, même que non, je le ferai pas. Et puis finalement, comme j'avais fait les suites spirituelles, entre guillemets, qui sont Phantom Hourglass et surtout Spirit Tracks sur DS, qui sont à peu près dans le même style, je me suis dit oui, pourquoi pas, et puis ça permet de faire un Zelda de plus que finalement je n'avais jamais fait. Et en fait, je me suis dit, mais quel imbécile étais-je à l'époque, alors je sais pas si c'est que maintenant il est en HD ou pas, mais j'ai trouvé ça super beau en fait, ça fait comme si on évoluait dans un dessin animé en fait avec le cel shading, c'est vachement moche. Parce que toi t'en penses en le regardant du
moi
coup,
aussi je l'ai
regardé, mais ça fait comme si voilà, comme si on était maître d'un dessin animé. Je dirais pas un dessin animé interactif parce que du coup les gens vont penser que c'est juste un truc où t'appuies sur croix rond bouton de temps en temps pour faire un truc, ce qui n'est pas vrai. Ça reste un vrai Zelda à part entière et qui est au niveau de l'histoire en fait dans la continuité le Zelda qui s'appelle The Ocarina of Time. Mais Alzheimer me guette. Et du coup, dans la continuité, forcément, de la suite d'Ocarina of Time, de la suite directe qui est Majora's Mask. Dans le sens où on nous dit au début que, on en parle d'une légende qui s'est un petit peu perdue dans le temps et tout, qui s'est passée il y a super longtemps, donc on pense qu'il y a des milliers d'années, enfin, dans ces eaux-là. Et en fait, l'histoire qui nous est racontée, c'est l'histoire de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Du héros du temps, tout ça, et que bon, ça a laissé quelques mythes et légendes et traditions, voilà, qui se répercutent encore jusqu'à nos jours dans certains lieux, et voilà, donc c'est en suite directe. Alors je vous avoue que j'y joue que depuis, en gros, ce matin, vraiment, en fait. Donc j'ai pas trop avancé, mais c'est assez sympa, on retrouve tout ce qui fait un bon Zelda... C'est-à-dire l'aspect quête, l'aspect un peu environnement un petit peu médiéval que j'aime bien. Ce qui est sympa aussi, c'est que c'est un Link qui est vachement plus expressif, je trouve, que les autres Link, en fait, qu'il y a dans les autres Zelda. C'est-à-dire avant, il y avait juste la surprise et le oh, je suis pas content, et puis voilà. Là, il y a un peu tout. Il y a le côté, je suis un petit peu malade, je suis un petit peu pas sûr de moi. Le côté, je tire la langue quand je m'applique. En fait, il est vachement plus expressif, vachement plus d'expression pour l'instant. C'est assez sympa. L'avantage du gamepad est pas mal exploité parce que du coup, au lieu de faire comme dans la plupart des Zelda, de galérer d'appuyer sur Select pour aller chercher un truc qu'on place dans un machin et tout, on peut le faire directement depuis le gamepad sans avoir à mettre pause, pause ni rien, et à trifouiller dans les menus. J'ai déjà parlé de l'avantage de pouvoir éventuellement ne jouer que sur le gamepad pour pas embêter les gens. Et la quête a l'air sympa, elle donne envie. En gros, je vous spoil les 5 premières minutes, c'est que ben Ganondorf, donc, qu'on avait battu à plate couture dans Ocarina of Time, qui revient, on ne sait pas comment, mais toujours pour piquer la Triforce et faire chier le monde. Et ben, on s'aperçoit qu'en fait, enfin, on s'aperçoit après que c'est lui qui est dans le coup, mais notre sœur est enlevée et nous, on décide d'aller la chercher. Donc voilà, et puis on s'aperçoit que c'est Ganondorf qui l'a. Qu'il a enlevé, donc il va donc falloir poutrer du Ganondorf, hein, comme d'hab dans la plupart des Zelda, pour pouvoir récupérer sa sœur. Voilà, sachant que, Legend of Zelda, Spirit Tracks, le moyen de locomotion prédominant est un train, là c'est un bateau. Voilà, donc ça promet pas mal d'exploration et tout. J'avoue que j'ai pas encore testé parce que j'ai le bateau que depuis quelques dizaines de minutes. Alors je vous parle, mais ça, je vais m'empresser, mes frères, d'aller chercher la voile, la nouvelle voile que l'on nous a promis, née de l'alliance du Wii U et du HD, c'est-à-dire qu'en fait c'est une nouvelle voile super rapide qui est optionnelle, donc il faut aller chercher, mais qui gomme un petit peu les défauts de la voile normale qu'il y avait sur la version de base à l'époque de Wind Waker, qui disait qu'on était, enfin, qui faisait que, on n'avançait pas vite, deux, fallait vraiment être dans le sens du vent et tout. Mais les gens trouvaient ça un petit peu relou, je peux les comprendre. Je les comprends même pour avoir fait un petit peu de bateau pour l'instant sans voile. Et là, du coup, avec cette voile, on fait fi des éléments et on passe son temps à tracer comme une loutre de mer.
Et
du coup, les déplacements s'en trouvent facilités. Voilà. As-tu des choses à rajouter? Non, absolument pas. As-tu des infos, d'ailleurs?
J'ai vu qu'il y avait le Wii Fit U là, qui va sortir bientôt, et apparemment, on peut jouer aussi avec le gamepad, en fait, mais tu vois,
Le gamepad sur la télé.
Ouais, d'accord. Et je vois pas comment, en fait.
Bah, peut-être parce qu'en fait, il y a un gyroscope dans le gamepad, et du coup, tu peux prendre tes mouvements, tu vois.
Ouais.
Et elle t'indique à l'écran quoi faire, et puis en fonction du gyroscope du gamepad.
D'accord, donc dans ce cas-là, t'aurais pas les Wiimote et compagnie, quoi.
Bah non, si t'as le gamepad. Quand tu peux pas avoir. Enfin, je pense que c'est un peu relou d'avoir un gamepad et Wiimote.
Bah oui, c'est pour ça que ça me semblait un peu.
Ça laisse récent. Sinon, je pense que toi, de toute façon, tu vas prendre.
Pikmin
aussi un jour.
Ouais.
Voilà, et puis moi, je pense qu'un jour, je prendrai Zombiju aussi. Que j'ai envie de faire aussi. Voilà. Déjà à l'époque, je me tâtais de la prendre que pour Zombiju.
Ouais, mais je crois que ouais, Zelda, je prendrais le Wii Fit.
Quoi ?
Je prendrais le Wii Fit, lui, oui. Aussi.
Voilà, donc, comme quoi, finalement, une fois qu'on l'a, c'est pas si ripou, parce qu'il y a plein de jeux qu'on veut faire, finalement.
Bah, disons que sur la Wii, je voulais déjà prendre le Wii Fit, en fait, et que j'ai pas jamais eu l'occasion de...
De pouvoir le faire.
Voilà, donc... En plus, il y a un petit truc, là, un peu comme le Fitbit et compagnie.
Fitbit.
Tu sais, les espèces de trucs là qui comptaient pas.
Ah oui, qui analysent ton truc.
Là,
voilà.
Et qui analysent.
Oui, une espèce de podomètre magique.
Ouais.
Ok.
Ouais, enfin, après, c'est accessoire. Mais...
Oui, non, mais ça peut être sympathique, surtout pour les trucs de remise en forme et tout.
Ouais.
Donc voilà, finalement, une fois on se dit, ouais, bof, machin, là, oui, pas top. Surtout qu'on n'en entend pas forcément du bien. Hein, surtout du fait qu'il n'y ait pas de jeu et tout. Puis finalement, quand on l'a, on se dit, ouais, il y a ça qui est bien, ça aussi, ça aussi. Et finalement, on a déjà prévu, ou en tout cas envie, de s'acheter plein de trucs dessus.
Voilà.
En tout cas, pas mal de trucs. Voilà, ce qui conclut la partie jeux vidéo. Et pour conclure le podcast en lui-même, du coup, des news, pas de news,
ouais,
non, tu m'as dit. Des news, et bien le jingle news, c'est parti.
Ah,
Alors, eh ben, les petites news. Donc, on a appris cette semaine que Showtime avait commandé une quatrième saison pour la série Homeland. Bah ouais, forcément, ils ont eu pas mal de récompenses aux Emmy Awards et aux Golden Globes. Donc, forcément, bon, bah, ouais. Ils se sont dit, allez, on va continuer.
Moi, je suis à 4 épisodes de la saison 1, donc je sais pas si ça vaut la peine de faire une quatrième saison. Mais...
Moi, la saison 1, j'ai beaucoup aimé. La saison 2 aussi. Et là, j'ai l'impression que la saison 3...
Ça commence à tourner en rond.
Ça commence un peu à... Ouais. Après, on est qu'au tout début de la saison. Donc,
non, tu es qu'au tout début de la saison.
Oui, je suis qu'au tout début de la saison. Mais est-ce que ça vaut la peine d'aller plus loin? En fait, il y a des séries où je comprends pas pourquoi on s'acharne.
Acharnement thérapeutique sur les séries.
Mis à part pour se faire du fric, évidemment.
Ça peut être une des raisons principales,
voilà,
effectivement.
Parce que, par exemple, il y en a pas mal de séries comme ça. Par exemple, moi, je regarde Pretty Little Liars, où là, je sais plus, je crois que c'est la quatrième saison, mais j'en ai trop marre depuis le début. Il y a un mec là qui fait chier tout le monde qui s'appelle Un. À la saison 4, on sait toujours pas qui c'est, ce putain de gars, quoi. Et c'est relou, quoi.
Enfin, c'est toujours un... Enfin, je pense à ça, mais c'est toujours un peu mieux que Once Upon a Time, où ils se sont tirés une balle dans le pied dès la fin de la première saison. Genre, pop, pop, on a levé la malédiction, et maintenant, rame pour faire d'autres saisons.
Ouais. Après, on n'a pas encore commencé la nouvelle saison, là, mais...
Ouais, mais c'est des spin-offs, les nouveaux trucs. Alors.
Non.
Non, c'est pas des
espèces
de spin-offs.
Il y a un spin-off, mais Once Upon a Time continue.
Ah, d'accord.
Oui, oui.
Okay.
Et puisqu'on parle de Once Upon a Time, voilà, donc en fait, il y a le
même
mec...
Même pas fait exprès la transition.
Ouais, il y a le mec qui devait jouer Christian Grey dans le film 50 nuances de Grey, Charlie Hunnam, qui a pas voulu le faire finalement.
Oui, bah je comprends. Oui.
Voilà, et donc finalement ce sera Jamie Dornan, ouais. Mm. Voilà.
C'est érotique.
Voilà, qui va le remplacer. Et donc, cet acteur, en fait, c'est
remplace-moi.
C'est le shérif et chasseur, donc, justement,
Le shérif, fais-moi peur.
Dans Once Upon a Time.
Le shérif de Once Upon a Time, vas-y, mets-moi les menottes.
C'est érotique.
C'est érotique.
Voilà. Et il y a aussi la saison 3 d'Hirocorp qui vient de commencer, là.
Tout à fait. Mais d'ailleurs, d'après ce que je viens de comprendre, parce qu'en fait, maintenant, c'est pas des grands épisodes, c'est des petits épisodes de 5 minutes, en gros, par jour.
Ouais, le format a changé, ouais.
Où ils passent, c'est à partir de 20h30, 20h20, un truc comme ça.
20h35.
Où ils passent l'épisode de la veille, plus l'épisode du jour. Mais d'après ce que j'ai compris, il faut un gros épisode, je viens de voir sur Twitter, juste avant d'enregistrer, un gros épisode de 35 minutes, je pense, le dimanche, et qui doit faire regrouper tous les épisodes de la semaine.
D'accord. Voilà. Ça, c'est pas mal, parce que c'est vrai que...
C'est vrai que c'est un petit peu chelou, ça coupe un peu le rythme, peut-être.
Ouais.
Chelou, moi.
Surtout que ça tombe en même temps que scène de ménage.
Oui, en plus.
Ça nous perturbe.
Mais du coup, s'ils regroupent les gros épisodes le dimanche, pour ceux qui
est-ce que ça vaut pas la peine de regarder le dimanche?
Voilà.
Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas mal, ça.
Sinon, regardez
tout le temps.
Parce
que le format est chelou, en fait. J'ai l'impression de trop peu, en fait. Quand ça finit, je fais déjà.
Mais regardez quand même, parce qu'il faut qu'il y ait de l'audience et tout pour que ça continue.
Oui, parce que
faites regarder la semaine et le dimanche. Voilà, il faut le soutenir.
Ouais.
Voilà, et bien sur ce, finalement, on est presque dans nos délais habituels, parce qu'on a fait 34 minutes 30. Enfin, là, on est à 34 minutes 30 au lieu de nos 35 minutes habituelles.
Ouais.
On est presque encore, finalement. On va vous souhaiter une bonne semaine. On va vous souhaiter de nous écouter, mais si vous écoutez, qu'on vous souhaite de vous écouter, c'est que vous nous écoutez déjà.
Ouais. Et moi, je voulais dire quand même, parce que notre podcast s'appelle Marié deux iPhones,
oui.
Et qu'en fait, aujourd'hui, c'est notre premier anniversaire de mariage.
Oui.
Voilà.
Et pas notre premier anniversaire de podcast, mais du vrai mariage en vrai, en fait. Voilà. Et bien, surveillez-nous.
Oui,
aussi sur Twitter, @marié deux iPhones. Voilà, sans accent, ou @croquette et @angelus_yodelson. Voilà. Sinon, le site http marié deux iPhone, pareil, comme sur Twitter, tout attaché sans accent, .podchose.fr. Et la page Facebook, facebook.com/marié2iPhone, je crois.
Sinon, vous cherchez marié deux iPhone, ça vous le
Sur Facebook, tout ça. Devenez fan, faites des likes, aimez, partagez, orgiez, faites ce que vous voulez. Voilà, et bien, à la semaine prochaine, normalement. Ou au prochain épisode, en tout cas, ça c'est sûr. Allez, salut !